Eh bien, prions avant de partager quelques paroles. Seigneur, les mots qui vont suivre, je suis vraiment reconnaissant que tu les aies mis dans mon cœur, que tu les fasses résonner dans mon esprit, Seigneur, et que tu me permettes de les partager. Avec l'Assemblée, Seigneur, en espérant pouvoir te rendre gloire à travers eux, qu'ils puissent nous aider à croître dans notre foi, Seigneur, et à continuer de toujours garder les yeux tournés vers toi, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, vous avez pu vous en rendre compte, parce que le mot est intervenu quand même plusieurs fois depuis le début de ce culte, mais on va parler de confiance et jusqu'où on a confiance en Dieu. La réponse, ça peut sembler facile au premier abord, surtout quand tout va bien, quand le temps est chaud et agréable, pas comme aujourd'hui. Quand on voit les rayons de soleil, la chaleur qui vient nous caresser la peau, qu'on sent le vent frais, on se sent particulièrement bien. Et là, c'est facile de dire, ah, ouais, j'ai confiance en mon Seigneur, il m'apporte vraiment que des bénédictions. Mais à l'image d'aujourd'hui, ben, parfois le ciel s'assombrit, il y a le vent qui se lève, la pluie qui tombe. Puis on est dans une période où il y a peu de luminosité et que le temps devient morose. On peut être découragé, un pépin, un imprévu, une voiture qui tombe en panne, des dettes qui s'accumulent ou de l'argent qui vient à manquer. Plein d'autres événements qui font que dans ces moments-là, bah on peut crier à Dieu de venir nous aider, nous venir en aide. Et alors là, soit on a les réponses immédiates et bah ouais, on a raison d'avoir confiance. Et puis, parfois, le Seigneur ne nous répond pas tout de suite. Ou sa réponse, c'est non. Il ne veut pas accéder à notre quête et nous le dit clairement. Ou simplement, bah, pas maintenant. Peut arriver. D'avoir des épreuves très tragiques dans la vie et ou certaines qui durent vraiment longtemps. Dans ces cas-là, on peut se sentir désorienté. C'est notre nature de nous sentir un peu désorienté, troublé et inquiet. On croit toujours en Dieu, mais on se sent mal à l'intérieur de soi. On peut se poser la question, pourquoi ça arrive? Pourquoi les choses continuent comme ça? Où est la délivrance qui nous est promise? Avoir confiance en Dieu, ça exige beaucoup plus que le simple fait de croire en son existence. La Bible dit que les démons aussi croient et ils tremblent. La véritable confiance, c'est de croire que Dieu prend à cœur notre bien-être et qu'il s'est engagé à nous guider. Alors la nature propre de l'homme, c'est de croire ce qu'on voit, ce qui est palpable. C'est difficile quand accorder sa confiance à quelqu'un. Souvent, on a besoin de passer du temps avec cette personne. On a besoin d'apprendre à la connaître, de savoir un petit peu comment ils agissent et savoir si on peut compter sur ces personnes. Ça nécessite un contact. Et ça se développe en voyant le retour qu'on reçoit de ces personnes. On lance un petit peu des choses et puis on voit un petit peu les retours. Mais le Seigneur est invisible, en tout cas pour nous maintenant. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre foi en lui et lui faire encore plus confiance que la confiance qu'on a décidé de lui donner au départ? Eh bien, c'est de la même manière. On peut simplement passer du temps avec lui et encore plus de temps avec lui. Marcher avec lui et développer une relation continue avec lui jusqu'à ce qu'on finisse carrément par le voir spirituellement. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 14, il est dit: le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Et aussi, Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Les vraies réalités de la vie ne sont pas des choses que nous pouvons voir, toucher ou goûter. Ce sont les choses invisibles de Dieu. Est-ce que par notre propre foi humaine, nous arrivons, est-ce que c'est par notre propre foi humaine que nous arrivons à voir et à faire confiance à Dieu? Ah non, c'est extrêmement difficile, c'est pas notre nature propre, en tout cas notre nature corrompue par le péché qui nous permet de lui faire pleinement confiance. C'est bien Christ qui agit en nous, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et c'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et donc de la pensée de Christ que nous voyons les choses qui nous étaient invisibles avant. Nous ne sommes pas capables de faire ce que nous ne pourrions pas accomplir. Nous sommes capables alors, avec l'Esprit et par la foi de Christ, de faire ce que nous ne pourrions pas accomplir normalement. Il y a un exemple qui m'est revenu vraiment, enfin, sur une mère de famille aux États-Unis où il y a quelqu'un qui entame une fusillade dans une église et elle y perd son mari, elle y perd sa fille. Et quand on lui demande ce qu'elle en pense, et cette femme, elle prie pour le tireur, elle prie pour sa rédemption, pour qu'il puisse comprendre qu'il agit mal et pour qu'il soit sauvé. C'est quand même une belle démonstration de foi. Nous avons tous besoin d'avoir une perspective qui est beaucoup plus spirituelle pour affronter nos épreuves, pour essayer d'en comprendre la raison et pour croître dans la foi en Dieu. Parce que c'est nécessaire, là, cette foi en Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais alors, que faut-il faire pour croître dans cette confiance en Dieu? Eh bien, essayez à chaque fois de le chercher avec encore plus de netteté. À quel point on est proche de Dieu? Et à quel point on le connaît vraiment? À quel point on peut le voir comme une réalité dans notre vie? Et ça doit être une priorité absolue dans notre vie spirituelle d'apprendre à le comprendre à tout point de vue. Parce que l'esprit charnel ne peut pas comprendre Dieu ni son caractère. Si on prend, c'est expliqué en Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dieu n'est pas comme nous. Il ne réagit pas de façon charnelle comme les êtres humains, mais parfois nous sous-estimons ses motifs et ses intentions en essayant d'expliquer les choses qui nous arrivent selon nos modes de fonctionnement. Il y a l'exemple du livre de Job. En lisant les premiers versets, qui aurait pu deviner la suite de l'histoire? Dès le début, Job est décrit comme un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Et plus loin, Dieu lui-même précise, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et quelle déclaration! Et donc après une telle description, On peut s'attendre quand même à une vie merveilleuse et remplie de bénédictions pour cet homme, sans aucune fausse note. Dieu était satisfait de Job, qui faisait beaucoup de bonnes choses, mais est-ce que Job avait encore des choses à apprendre? Évidemment. Et pourtant, Dieu l'a ni puni, ni négligé. Lorsqu'on est dans l'épreuve, quel sentiment vous pensez que Dieu a pour vous? Que pensez-vous qu'il puisse dire de vous? Est-ce que vous pensez possible qu'il puisse tenir un discours semblable à celui qu'il avait au sujet de Job? Quand on est dans les épreuves, en général, c'est rare qu'on pense à des choses positives. On peut supposer que Dieu est déçu, qu'il a honte de nous et parfois on s'en est même honteux. On s'accuse de ce qui nous arrive. Pourtant, Dieu nous le répète et très régulièrement, faites-moi confiance et je prendrai soin de vous. Il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous enseigne pas de ne faire confiance à personne. En Hébreux 13, verset 5, c'est très clair. Il dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et dans Tite, chapitre 1, verset 2, Paul affirme que Dieu ne ment jamais. Non, il travaille avec nous pour nous enseigner comment avoir une plus grande confiance en lui. C'est important d'apprendre à mieux connaître le Père et comprendre que l'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. C'est dans le psaume 103, au verset 8. Et au verset 13 et 14, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Et alors en particulier, quand on est dans l'épreuve, quand on doute, quand on est troublé, il faut vraiment se rappeler ces paroles et se concentrer sur ces traits de caractère. Aussi, pour croître dans la confiance et la conviction que Dieu prend toujours nos intérêts à cœur, nous devons aussi voir et reconnaître l'œuvre de notre adversaire. Nous ne devons pas ignorer que le diable est un esprit qui cherche toujours à attaquer. Et qu'est-ce qu'il cherche à détruire? Eh bien, c'est notre foi. C'est cette confiance qu'on peut avoir en Dieu et en Christ. Et ça, on le voit dès le début de l'histoire de l'humanité, dans le jardin d'Éden. Quel message est délivré à Adam et Ève? Mais vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu. Dieu vous a menti, il vous cache quelque chose. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Et autant c'est difficile de placer sa confiance en Dieu, autant c'est relativement facile à l'humanité de s'appuyer sur ce message. De s'écarter de Dieu en pensant qu'il nous abandonne, qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il nous cache des choses. Dans Job, alors c'est une vision inhabituelle et pourtant très explicite du monde spirituel qui est vraiment décrite parce que ça révèle une conversation entre Dieu et le diable. Et on peut lire dans les versets 6 à 12 que Dieu soutient son serviteur fidèle et qu'il le défend. Et que c'est bien le diable qui à chaque fois l'accuse et le juge. N'oublions jamais qui est l'accusateur. C'est pas Dieu. Qui remet en question nos motivations et doute de nos intentions? C'est pas Dieu. C'est important de garder ça en tête. C'est important de savoir si nous examiner et voir si on a fait quelque chose de mal. Et on peut même demander à Dieu de nous montrer ce qu'on doit apprendre. Mais il ne faut pas se laisser surmonter par les sentiments de tristesse, menant jusqu'à la dépression ou céder sous le poids de la culpabilité, chacun d'entre nous va commettre des erreurs, c'est attaché à notre chair. Et justement, la confiance en Dieu, ça permet non pas de qu'il nous accuse, mais ça nous permet de grandir dans la foi et de nous montrer comment lutter contre les ruses et les tentations. Et plus on met notre confiance en Dieu, et il faut être vraiment conscient que plus le diable va s'acharner jour et nuit à essayer de semer le doute dans notre esprit en bafouant les véritables motivations divines. Dieu nous a donné le bouclier de la foi pour nous défendre. Alors ne pas être négatif et ne pas sombrer dans ces sombres pensées, ça signifie pas que se réjouir des épreuves qui nous sont proposées, ça veut pas dire qu'on ne doit pas être à un moment donné affligé ou désolé. Parfois, on a besoin d'évacuer ces sentiments et c'est il y a des choses qui nous arrivent qui sont franchement pas drôles et qui sont dont on veut vraiment se détacher. Et c'est on a cette chance d'avoir une famille chrétienne. Et ensemble, on n'est pas là pour se juger quand on voit quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est dans le doute, qui lutte dans l'épreuve. Mais justement, on a une bénédiction qui nous est offerte par Dieu pour y trouver le réconfort dans cette famille chrétienne, pour trouver de l'encouragement, même si c'est difficile dans certaines situations de trouver les bons mots, d'avoir le poids et l'aide de la prière pour que l'aide divine agisse et retrouver un petit peu plus de ciel bleu après la grisaille. Dans le dialogue entre Dieu et le diable, dans le livre de Job, le diable fait une observation qui est intéressante. Ça se passe dans le premier chapitre, au verset 10. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Pensez-y, même Satan reconnaissait que Dieu avait mis une barrière de protection et de bénédiction autour d'un homme juste qui le louait. Et s'il accordait une protection spéciale à Job, mais il le fait exactement de la même manière pour nous. Pensez à toutes les choses auxquelles le monde est confronté. Ici, là, c'est le monde où le diable agit et il est un maître cruel. C'est pour ça qu'on voit des dizaines de guerres qui font rage. Des familles chassées et persécutées. Des centaines de milliers de personnes qui perdent la vie dans des catastrophes naturelles. Et bien que nous ayons, alors nous, on a cette barrière protectrice, mais alors, pourquoi des mauvaises choses surviennent parfois? Et bien, l'histoire de Job nous montre que Dieu, dans cette barrière protectrice, il ouvre parfois une brèche. Là, pour Job, tous ses bœufs furent volés, toutes ses brebis furent consumées et ses chameaux saisis. La plupart de ses serviteurs furent tués dans des catastrophes. Ses sept fils et ses trois filles périrent tragiquement dans une violente tempête. Et plus tard, il fut frappé d'une maladie douloureuse et épuisante. Alors Dieu avait-il perdu le contrôle? Ou ses promesses étaient-elles soudainement devenues caduques? Était-il devenu déloyal? Non. Il a simplement ouvert une brèche dans la barrière pour permettre au diable de le frapper. Mais il gardait le contrôle total, y compris sur les paramètres qui délimitaient la marge de manœuvre accordée à Satan contre Job. C'est Dieu qui dictait les limites précises et le diable ne pouvait pas les dépasser. En pensant à nos épreuves dans la vie, se pourrait-il qu'il y ait une conversation similaire qu'il y ait lieu entre notre Seigneur et l'adversaire. Jésus-Christ pourrait avoir permis à Satan de nous envoyer une épreuve, mais en lui disant, tu peux aller jusqu'à cette limite, mais pas au-delà. La capacité de Dieu à maintenir le fonctionnement de l'univers est impressionnante. Il en est de même pour sa bonté bienveillante, sa tendresse et sa capacité à nous encourager. Il n'est ni cruel ni indifférent à ce qui se passe dans notre vie. Il ne nous jette pas dans les épreuves, juste pour voir si nous allons survivre ou non. Il nous pousse, certes, parfois, hors de notre zone de confort, mais jamais au-delà de nos limites, et ça, c'est une promesse. D'ailleurs, Paul a écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La leçon de tout ça, c'est que Dieu est avec nous et qu'il contrôle tout. Mais qu'il nous pousse parfois hors de notre zone de confort pour que nous soyons mis à l'épreuve. Parce qu'il veut que nous développions une plus grande capacité à le servir. Et c'est pour ça qu'il nous permet des épreuves qu'il permet que nous ayons des épreuves à affronter. Prenons Jérémie chapitre 17 et versets 5 à 10. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, et qui prend des créatures pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Ces paroles sont très claires. Hein. Il est vraiment préférable de mettre notre confiance en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut réellement savoir ce que nous pensons et ressentons au plus profond de nous-mêmes. Il teste nos motivations, nos intentions, et il veut savoir ce que nous voulons vraiment. Il veut savoir comment se porte notre vision spirituelle et nous aider à développer notre compréhension. Au final, il veut que nous apprenions à lui demander de nous montrer clairement comment il est et à nous tourner vers lui pour agir ainsi. Alors soyons reconnaissants que Dieu ait mis cette barrière protectrice autour de nous et qu'il ne l'en trouve que pour nous permettre un enseignement, de croître dans la foi, nous entraîner et nous tester pour faire de nous des meilleurs serviteurs. Il ne peut, nous teste pas pour que nous lui fassions moins confiance, mais bien au contraire, pour que nous ayons davantage confiance en lui. Et face aux épreuves, on a souvent cette même question. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Si tu ne l'as pas fait, pourquoi as-tu permis cela? Car je sais que tu es tout-puissant. Voici quelques-unes des nombreuses questions que nous pouvons nous poser. Et finalement, Job a fait la même chose, il s'est posé exactement les mêmes questions. Et est-ce que Dieu lui a répondu? Ben oui, en plein milieu de la tempête, il répond ceci, c'est au chapitre 38 et versets 4 à 7. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? La réponse ici, elle est évidente. Il lui répond par tout un tas de questions, mais c'est bien Dieu qui a fait toutes ces choses. Et bien plus encore, alors c'est encore détaillé jusqu'au verset 36. Quand on est parent, ça nous arrive régulièrement d'avoir cette question de nos enfants. Pourquoi? Et c'est assez régulier qu'on leur réponde, bah, c'est parce que je te le dis. Et c'est ce que Dieu est en train de répondre à Job à ce moment-là. Il y a une raison. J'ai mes raisons. Mais tu ne le comprends pas encore. Et c'est pas parce que tu ne le comprends pas encore et que tu ne vois pas encore que ça signifie qu'il n'y a pas de raison. Tu es dans la paume de ma main, je suis fidèle, je suis là et je t'aime. Tu le comprendras un jour. Mais pour le moment, tu dois prendre ma parole telle quelle. C'est souvent la seule réponse qu'on reçoit dans nos épreuves. Et cette question du pourquoi, elle est souvent, c'est souvent une question qui nous renferme dans quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer parce qu'on cherche une raison de ce qui s'est passé, mais il y a une raison, même si on ne la comprend pas. Parce qu'on sait que Dieu est fidèle. Il nous le dit et nous l'a prouvé suffisamment. C'est difficile de ne pas comprendre, mais il nous apporte toujours une réponse. Il répond toujours quand nous lui demandons, même aux questions difficiles. Mais parfois, la réponse qu'il nous donne, elle répond peut-être à une question qui était beaucoup plus justifiée et peut-être plus qui répond à ce que nous avons besoin. Ici, dans l'exemple de Job, il n'a pas directement répondu à la question de Job qui lui demande, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais il lui répond, je sais ce que je fais, je suis le Créateur, fais-moi confiance. Et il s'est avéré que c'est exactement la réponse dont Job avait besoin. Rien n'avait encore changé dans ses conditions de vie où il se trouvait, mais lui, son attitude était devenue complètement différente. Sa vision avait changé. Son regard avait changé et sa perspective était différente. Il voyait mieux Dieu et il le louait, il l'adorait pour ça. On peut savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est en Romains 8, verset 28. C'est seulement en ayant une vision spirituelle, affirme de tout mettre en œuvre dans un but unique pour ceux qu'il appelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous prépare à entrer dans sa famille et à être avec lui pour toute l'éternité. Et il nous aide à aussi aider les autres à partager cette vision plus spirituelle. Dieu est en train d'accomplir un plan ici-bas. On comprend parfois pas tout. Il nous aide par son Saint-Esprit à distinguer les choses divines, les choses qui sont invisibles, imperceptibles. Le monde entier se débat sous le poids de la douleur et de la souffrance, mais nous, nous avons l'espérance parce que Dieu nous a permis de voir ces choses invisibles, simplement en lui accordant notre confiance. Il nous est encore impossible de voir tout le tableau complet, mais nous avons l'espérance et nous l'attendons. Nous demandons à Dieu de nous donner la vision, de nous en apprendre un peu plus, ce que nous avons besoin pour avancer et surtout nous aider à lui faire pleinement confiance. Alors qu'est-ce que c'est que cette vision spirituelle? Paul l'a clairement exposé en disant dans Romains 8, le verset 18, j'estime que toutes les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Paul a beaucoup souffert dans sa vie. Pourtant, il avait une foi solide et une confiance en Dieu sans pareil, parce qu'il arrivait réellement à voir Dieu et les priorités divines dans sa vie. Et c'est aussi notre but. Une des clés pour avoir confiance en Dieu, c'est de le voir plus nettement, ainsi que de voir le soin et l'intérêt qu'il nous porte, ce qui inclut également de reconnaître les embuscades et les pièges du diable, y compris les doutes que Satan cherche à implanter dans notre esprit pour saper cette confiance en Dieu. Il faut être lucide là-dessus. Nous devons également apprécier cette barrière protectrice que Dieu place autour de nous et comprendre qu'il permet, dans une certaine limite, qu'il y ait une brèche de temps en temps pour un but précis. Nous recevons toujours une réponse lorsque nous demandons pourquoi à Dieu. Mais parfois, Dieu répondra à une question différente de celle que nous lui aurons posée, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Tout ceci demande d'avoir une vision spirituelle. Celle-ci est essentielle pour augmenter notre confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'en notre Père Céleste. Je vais conclure ces quelques mots en reprenant le psaume 62. Au chef de cœur, d'après j'ai du teint, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. Les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Amen.